Bonsoir. Nous ne sommes pas tout à fait au complet, mais nous allons commencer en espérant que cela fera arriver les intervenants qui ne sont pas encore présents. Il nous manque un libraire, peut-être. On n'est pas sûr que Jean-Marie Ozanne vienne comme prévu, mais il sera peut-être remplacé par un ou une de ses collègues. Et puis, Mindra Nui, qui est rédactrice en chef adjointe du magazine littéraire, devrait aussi arriver d'un moment à l'autre. Mais en attendant, nous allons tout de suite commencer cette rencontre autour du festival du premier roman de Chambéry, qui entretient avec le Centre Pompidou depuis 3 ans maintenant, je crois, un partenariat. Et le but de cette soirée est donc de parler à la fois de ce festival, mais aussi de la problématique particulière des premiers romans. Nous avons pratiquement toute la profession, toute la chaîne du livre est représentée pour en parler. Arnaud Bertina, vous avez été un des invités du festival de Chambéry en 2001, je crois.
2002.
Donc pour votre premier roman. Et cette année, vous y êtes revenu en tant qu'ancien, déjà, d'une certaine manière, auréolé comme ça du prestige, effectivement, de l'écrivain accompli, puisque vous avez publié plusieurs livres, tout de même, depuis. Bon, vous n'êtes plus un primo-romancier. Voilà, l'affaire est entendue, en tous les cas. Et vous avez pu rencontrer un certain nombre de vos collègues qui, eux, venaient de publier leur premier livre et avaient été sélectionnés pour ce festival. Donc, vous nous direz peut-être, je ne sais pas, comment vous avez observé la situation et quel rôle a joué ce festival pour vous aussi. J'imagine que c'est un rôle plutôt positif, sinon vous ne seriez pas revenu. Vous avez l'air de l'avoir fait avec plaisir. Véronique Bourlon, vous êtes la directrice de ce festival. La nouvelle directrice, vous avez été nommée récemment, et donc vous nous parlerez de la spécificité. Je crois que c'est tout de même un festival qui a la particularité de reposer sur un jury de lecteurs très, très important, de mettre en œuvre de très nombreux comités de lecture. Je crois que c'est assez particulier, puisque bon, c'est un jury qui n'est donc qui est très indépendant, je suppose, et ça doit complètement indépendant, et ça ne doit peut-être pas être très facile, parce qu'il paraît quand même, bon, le chiffre varie un petit peu tous les ans, mais environ 200 romans par an, hein, je parle sous le contrôle des différents spécialistes qui sont là. Bertrand Legendre, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 13, et vous vous êtes intéressé particulièrement au phénomène du primo-romancier. Enfin, de l'auteur de premier roman. Oui, de l'auteur de premier roman. Et donc, vous avez mené, et vous continuez à vous intéresser en tout cas à cette question, vous avez mené une étude sur les premiers romans, sur les auteurs de premier roman, sur surtout le devenir des auteurs de premier roman, parce que c'est la question qu'on a envie de poser tout de suite, d'emblée, c'est un premier roman et après, évidemment. Philippe Garnier, vous êtes éditeur chez Des Noëls. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez, si vous vous occupez plus particulièrement des premiers romans, mais ils vous en passent certainement entre les mains. Et je ne sais pas non plus quelle est la problématique particulière des éditeurs. J'ai le sentiment, mais je ne voudrais pas en parler avant l'arrivée de Mindra Nui, qui représentera la presse d'une certaine manière, mais j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de... Oui, on peut dire de bienveillance de la part de la presse à l'égard des premiers romans. Alors, je ne sais pas s'il en est de même des éditeurs, puisqu'après tout, s'il y a des découvertes à faire, c'est dans ce terrain particulier. Alors, je ne sais pas, Véronique Bourlon, peut-être pourrez-vous dire quelques mots, parce que je crois que le Festival de Chambéry a une spécificité très forte. J'ai parlé du système de sélection par les comités de lecture, mais j'aimerais que vous nous expliquiez en deux mots comment ça fonctionne, parce que a priori, l'auteur d'un premier roman est à peu près inconnu. Ça n'est pas toujours le cas. Il arrive que le premier roman ne soit non plus le premier livre publié, mais a priori, vous avez devant vous 200, disons à peu près 200 romans écrits par des inconnus. Comment les choses se passent? Dites-nous en quelques mots à quoi ressemble cette énorme machine.
Alors oui, ça marche? Ça marche pas. Si, ça marche. Oui, vous faites bien de parler d'une énorme machine pour ces premiers romans, puisque, donc, effectivement, selon les années, nous lisons, il y a un comité de présélection, en fait, qui lit l'ensemble de la production de premiers romans francophones qui paraissent sur une période d'un an. Donc, il y a 10 lecteurs dans ce comité de présélection. Et donc, chaque premier roman est lu au moins 2 fois pour savoir s'il passe à l'étape supérieure. L'étape supérieure, quelle est-elle? C'est la mise en lecture de cette présélection auprès d'environ 3000 lecteurs. Ces 3000 lecteurs sont répartis dans des groupes de lecture qu'on appelle dans notre jargon interne comité de lecture ou lieu de lecture, ou bien aussi des comités jeunes, puisqu'il y a des comités dans des établissements scolaires, en collège et en lycée. Et donc, cette présélection qui varie aussi selon les années. En tout cas, pour cette édition, il y avait environ 100 romans qui ont été mis en lecture au mois de septembre l'année dernière auprès de ces 3000 lecteurs. Ensuite, il se passe quelques mois de lecture, de débats, d'échanges entre ces lecteurs, parfois musclés, toujours en tout cas extrêmement riches. On pourra revenir là-dessus parce que c'est assez intéressant. Et au terme de quelques mois, début mars, on demande à l'ensemble de ces lecteurs de se prononcer pour les auteurs qu'ils ont préférés, les romans qu'ils ont préférés. Et donc, ça nous donne, on va dire, un espèce de palmarès, puisqu'il y a un classement. Et donc, ensuite, nous, équipe du festival, invitons les 14 premiers romans, donc les 14 premiers auteurs de premiers romans, c'est terrible. C'est toujours 14. Oui, ça, c'est une tradition. Un jour, peut-être, ça évoluera, mais en tout cas, pour le moment, on est assez content de ce chiffre. Et donc, voilà, sont invités 14 auteurs de premiers romans francophones. Et il faut ajouter qu'en parallèle à toute cette machine en français, il y a des lecteurs qui lisent en italien, puisque Chambéry, la Savoie, l'Italie, c'est à peu près la même histoire. Donc on a une proximité naturelle, culturelle aussi. Et donc nous avons environ 300 lecteurs français qui lisent en italien et qui choisissent, après aussi les mêmes mois de lecture, 2 auteurs italiens qui vont être invités donc au festival, 2 auteurs de premiers romans italiens. Donc on est aussi, je crois, dans le défrichage, dans la découverte de nouveaux auteurs, et pas seulement en français. On va les chercher aussi en langue étrangère, donc en italien et en espagnol aussi. On fait la même chose. Et puis on espère ouvrir l'année prochaine le même processus avec un auteur allemand et peut-être aussi un auteur de langue anglaise. Donc pour étoffer cette dimension européenne qui nous paraît extrêmement intéressante et importante aujourd'hui dans la création littéraire contemporaine. Donc en fait, c'est un grand processus.
Philippe, vous vouliez réagir sur un point.
Je voulais juste dire mon admiration devant ce comité de lecture de 3000 lecteurs. Je trouve ça bien formidable. Une maison d'édition, c'est exactement l'inverse. On est 3 lecteurs, 4 lecteurs quelquefois, et on arrive rarement à toucher 3000 lecteurs avec un premier roman. Donc c'est quand même une opération extraordinaire.
C'est pour ça que je dis c'est vraiment une grosse machine, cette histoire. Ouais. Et alors après, donc la grande spécificité, c'est que effectivement, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon équipe, ce n'est pas le conseil d'administration du festival qui invitons ces auteurs. Ce sont véritablement les lecteurs qui sont à la base de la programmation. Et ça, moi, quand je suis arrivée, oui, quand j'ai en fait aussi postulé pour ce poste, c'est ce qui m'a intéressée, c'est de me dire, alors là, chapeau, 3000 lecteurs qui se passionnent pendant quelques mois, donc de septembre à mars, pour des auteurs de premiers romans, donc effectivement, la plupart du temps, inconnus. Oui, on ne sait pas. Et ça marche. Oui. Et ça marche depuis 22 ans. Donc là, nous avons on renouvelle un petit peu la formule. Mais enfin, je veux dire, dans les faits, le concept est identique depuis le début et fonctionne de plus en plus. On a encore cette année, après le festival, eu de nombreuses personnes qui nous ont dit « Mais nous, on veut lire l'année prochaine. On veut rejoindre un comité de lecture. » Alors maintenant, il faut qu'ils en créent un parce que les comités de lecture regorgent de monde. Et les débats sont extrêmement intéressants. Et je voulais juste parler un tout petit peu du processus qu'on rencontre dans la lecture de premier roman chez ces lecteurs. Tout d'abord dire qu'effectivement, dans un premier temps, souvent, ces lecteurs ne parlent pas des auteurs. Ils nomment les romans en citant le titre, puisque
oui, l'auteur est inconnu.
L'auteur
a priori,
est inconnu,
oui, c'est ça, oui.
Ça ne leur dit absolument rien, donc on n'est pas dans un univers connu, on ne sait pas qui y a derrière. Ouais. Et c'est un côté un peu étrange. Donc voilà, dans un premier temps, on va parler voilà, de tel roman, tel titre, tel titre. Puis au fur et à mesure des mois qui passent, on sent qu'il y a, en tout cas pour certains romans, une espèce d'appropriation des noms, même si on ne sait pas qui sont ces personnes. Et puis aussi dire que lecture de premier roman, c'est quand même extrêmement particulier parce que justement, on est dans l'inconnu total. On ne retrouve pas un auteur, on ne retrouve pas un univers, on ne retrouve pas une écriture, on ne retrouve pas un thème ou une thématique chère à un auteur. Donc, faut vraiment aimer l'inconnu, l'ailleurs, la découverte. Et souvent, dans un premier temps, je me suis rendu compte que les lecteurs, entre eux, parlaient beaucoup, dans un premier temps, de l'histoire, quand il y a une histoire. Ça, on reviendra peut-être là-dessus. Mais bon, de l'histoire, de l'intrigue, des personnages. Et puis, au fur et à mesure aussi du temps qui passe, on commence après à s'intéresser à la structure, à l'écriture, à la parole, aux mots, à la langue. Et je pense qu'on a besoin de ce temps, de ces mois, pour arriver à une espèce de maturité de lecture qui arrive à un vote final qui représente le plus souvent voilà, une très grande qualité littéraire.
Et en même temps, les lecteurs doivent être de plus en plus aguerris, parce que s'ils font ce travail depuis des années, ça doit être des critiques absolument.
Et quand je suis arrivée, je me suis penchée sur le patrimoine littéraire du festival, puisque depuis 22 ans, le festival a reçu plus de 400 auteurs de premiers romans. Ouais, ouais. Je pense qu'à peu près 80% des auteurs qui font aujourd'hui la littérature contemporaine en France sont passés par Chambéry. Ça veut dire que ces lecteurs,
ouais.
Voilà,
ils ne se sont pas trompés.
Ils ne se sont pas trompés beaucoup. En tout cas, ils savent lire.
Ouais. Arnaud Bertina, ça fait quel effet d'être invité à Chambéry ? Est-ce que c'est une distinction ? Parce que pour un auteur d'un premier roman, a priori, effectivement, il n'est pas connu. Donc il peut espérer d'être remarqué par la presse, mais le fait d'être remarqué par un festival comme celui de Chambéry, quel est l'impact en quelque sorte ?
Avant de répondre sur l'impact, je répondrai sur la distinction. Non, moi je ne le prenais pas comme ça, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est assez démocratique et cool, j'ai envie de dire, à Chambéry, c'est que les 14 auteurs invités ensuite sont sur le même plan pendant tout le festival. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il n'y en a pas un qui est élu parmi ces 14.
Il n'y a pas un prix du festival.
Voilà.
Oui,
enfin, chacun repart avec le même prix, en fait. Donc ça, c'est très agréable aussi. Ça limite la compétition et ça fait que le festival ne tourne pas justement au prix littéraire. Donc résultat, ça invite, en tout cas quand on est un petit peu attentif à la symbolique des choses, ça invite à ne pas prendre ça comme une distinction, mais juste comme voilà, à un moment, effectivement, le livre, c'est pas tant vous qui êtes invité que le livre lui-même, c'est ce que disait un petit peu Véronique en disant que le nom de l'auteur circule moins que le titre du livre. Et donc on se dit, bon bah voilà, on va pouvoir mettre l'accent effectivement sur des questions un peu plus littéraires et un petit peu moins peut-être, disons, showbiz. Et ça se traduit par... Enfin, c'est structurel et c'est ce qui me semble hyper riche dans le cas du Festival de Chambéry. C'est que vous arrivez pour un café littéraire à Chambéry, vous n'avez pas besoin de chauffer la salle, vous n'avez pas besoin de raconter l'histoire, de dépeindre vos personnages, etc. Non, puisque justement, le livre a déjà été lu. Et précisément, si vous êtes là, c'est justement parce que les gens qui vous reçoivent avaient envie de vous entendre. Et donc, résultat, il y a toute une partie, en fait, disons, de la part mondaine qu'il y a toujours dans les rencontres littéraires qui, là, est squeezée. Et on est immédiatement voilà, à devoir parler de mécanique, de voilà, comment ça se construit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi cette qualité de langue-là et pas une autre, etc. Et donc, je trouve que par rapport à la moyenne des rencontres littéraires, voilà, les rencontres à Chambéry dans le cadre du festival sont beaucoup, beaucoup plus intéressantes, aussi beaucoup plus humaines, parce que la salle réagit immédiatement, parce que voilà, la salle avait envie que vous soyez là, elle avait envie de vous entendre avec les autres romanciers qui sont invités, etc. Donc ça, moi, je trouve qu'en termes de qualité de débat, de qualité de circulation des livres, je trouve ça vraiment optimal. Et on se rend compte que c'est assez rare. Que ça se passe assez rarement comme ça. Quoi.
Est-ce que ça peut aider ? Parce que j'imagine qu'un auteur de premier roman, quelquefois, a besoin d'être un peu rassuré, parce que Finalement, c'est son premier contact avec le monde de l'édition, avec des lecteurs, avec tous les professionnels du livre. Donc,
ça dépend du parcours de chacun. C'est-à-dire oui. que comme le festival arrive, un peu tard dans l'année, mais c'est justement, ça fait partie de sa vertu. Certains auteurs ont déjà eu pas mal de rencontres avec le public. Mais c'est vrai que pour d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là, le moment du festival, là, dans ce cas-là, c'est un moment absolument magique. Parce que voilà, il y a des gens qui viennent vers vous, et encore une fois, dans un climat de très, très grande bienveillance, de très grande convivialité et tout. Donc, pour ça, c'est fantastique. Je veux dire, en termes intellectuels et en termes humains, c'est fantastique.
Philippe Garnier, est-ce que dans l'édition, il y a donc selon les maisons d'édition, est-ce que chez vous, par exemple, il y a une politique particulière vis-à-vis des premiers romans? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, par exemple, envisager une rentrée littéraire sans la publication d'un premier roman?
Il y a une écoute particulière en septembre et en janvier du côté de la presse. Et donc, il est légitime de répondre à cette attente et à cette écoute-là et d'en profiter, d'en faire profiter les auteurs. C'est vrai qu'il y a deux moments de l'année où on publie nécessairement un premier roman, parfois deux, et on peut en publier à d'autres époques de l'année. Mais c'est vrai que c'est septembre et janvier qui sont les moins importants. Dans la mesure où il y a une tribune et un espace qui se dégage dans les cahiers-livres et dans différents médias, c'est très important d'y être, bien sûr. Maintenant, ça c'est la partie un peu... un peu circuit du livre, un petit peu main dans la main avec les médias et un peu marketing aussi. Mais il faut se poser la question, et ça je crois qu'on rejoint beaucoup les préoccupations des universitaires qui regardent un peu le phénomène de plus haut, il faut se poser la question de ce que ça devient. Le premier roman, c'est peut-être trop un produit aussi. Peut-être qu'on a trop une religion des commencements. En France, et peut-être que c'est pas toujours un coup de tonnerre, c'est peut-être pas toujours tout de suite un sommet, une révélation, mais que c'est le début de quelque chose qu'il faut savoir attendre. Et ça, la durée, accompagner un auteur, c'est souvent beaucoup plus difficile que d'avoir quelques papiers élogieux sur un premier roman. Et là, il y a vraiment un défi qui est posé sur le métier d'éditeur. C'est beaucoup plus long, difficile et tortueux.
Oui, c'est un lien qui se crée et qui prend du temps à
se développer. Il faut que l'auteur le veuille et il faut que l'éditeur puisse durer.
Voilà, bien. Mine vient se joindre à nous. Mine Tranui, merci de nous avoir rejoints. Alors précisément, le travail que vous avez mené vise à comprendre ce qui se passe dans la durée après ce premier roman. Parce que est-ce qu'on a par exemple des proportions, des statistiques quelconques sur le devenir des primo-romanciers? Est-ce qu'ils restent primo-romanciers à vie? Est-ce qu'il y a combien écrivent un deuxième roman? Combien? Enfin voilà, est-ce qu'il y a moyen de...
Alors, on a des éléments de réponse qui valent ce qu'ils valent. Ce sont ceux que j'ai pu tirer d'une étude qu'on a menée sur cette question-là, et qui est cette étude qui est assise sur un peu plus d'une centaine de primo-romanciers. Encore une fois, le terme vaut ce qu'il vaut. Hein. Cette étude donc porte sur une centaine de primo-romanciers et sur une période de 5 ans. Et une partie de l'étude donc portait précisément sur l'après-premier roman. Est-ce qu'il y a une vie après le premier roman? Et donc on peut répondre par des chiffres et qui ont le mérite d'être assez simples, ces chiffres, donc faciles à mémoriser pour le public, puisque, sans entrer dans les décimales, on observe que un quart des primo-romanciers arrêtent purement et simplement d'écrire de la fiction.
La fiction.
Alors, dans ce cas, on a ceux qui arrêtent purement et simplement d'écrire, et d'autres qui se reconvertissent ou qui reviennent à d'autres genres d'écriture. Le livre pratique, des essais, tout ce qu'on peut imaginer, de la littérature de jeunesse parfois, et s'agissant de la jeunesse, ça marche aussi dans l'autre sens. Et quand on les interroge sur les raisons de ce glissement d'une écriture à une autre, ils s'en expliquent pour certains par le fait que leur premier roman a été un échec. Ils en ont vendu quelques poignées. Ils ont été mobilisés pendant des mois, voire davantage, par l'écriture de ce premier roman. Et donc, ils vivent ces ventes très modestes comme un échec, comme un désaveu du public, ce qui est sans doute parfois une appréciation excessive. Certains sont déçus financièrement. Certains misaient financièrement sur l'écriture. Et donc là, évidemment, la déception est d'autant plus rude. Et ils se rendent compte que cette déception économique et cette déception en termes de construction de personnages, de construction d'auteurs, les amène à se reconvertir vers d'autres genres dans lesquels ils vont trouver un statut. Un statut, peut-être une rémunération au passage, un peu plus importante, mais surtout un statut de spécialiste de quelque chose. En fonction donc il vaut mieux être spécialiste d'un petit quelque chose qu'un primo-romancier qui reste avec 30 exemplaires au bilan des ventes. Donc ça, c'est le premier quart des primo-romanciers. Le second quart, ce sont ceux qui ont continué à écrire, mais qui ont échoué non pas dans le travail d'écriture, mais dans le travail de publication. Leur second roman, voire davantage, ayant été refusé par leur premier éditeur et par d'autres éditeurs. Et ça pose toute la question que Philippe Garnier évoquait tout à l'heure, qui est celle, bien sûr, de la difficulté à continuer d'écrire. Il y a aussi les auteurs qui vident tout leur sac dans un seul roman, mais aussi de la conception du travail d'éditeur. Est-ce que l'éditeur s'engage sur la durée auprès de ses auteurs ou pas ? Donc éditeur de long terme, éditeur de court terme, donc toutes ces questions-là sont sous-jacentes dans ce deuxième quart. Et le reste, là, je ne parle plus en quart, mais en moitié, la deuxième moitié de cet effectif, ce sont des auteurs qui ont continué d'écrire et d'être publiés. Et là, on peut distinguer ceux qui restent chez le même éditeur et ceux qui changent d'éditeur. On pourra peut-être revenir sur les raisons de ces changements.
Ça fait une proportion relativement importante tout de même. Alors, qui continue, je veux dire.
C'est le discours du verre à moitié
vide, à moitié plein, évidemment. Oui, si on veut.
Mais effectivement, c'est un bilan plutôt positif, en tout cas plus positif que ce qu'on pouvait imaginer, je crois. Le discours dominant ayant tendance à dire que la grande majorité des primo-romanciers reste ad vitam aeternam primo-romancier.
Alors, Mine Tranui, vous êtes journaliste, vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine littéraire et vous êtes primo-romancière, pour employer ce terme, puisque c'est le terme scientifique, paraît-il. Vous avez publié donc un premier roman, La princesse et le pêcheur, qui vous a valu d'ailleurs d'être invité à Chambéry.
Et
vous avez écrit un deuxième livre qui n'est pas un roman, mais qui est tout à fait dans le prolongement de ce premier roman, un recueil de contes vietnamiens. Et je crois savoir que vous publiez à la prochaine rentrée un deuxième roman. Il est là. Il existe même déjà. Oh, c'est formidable.
C'est en exclusivité mondiale.
Oui, absolument. C'est la première fois. Oh, alors là, c'est absolument un scoop. C'est la première fois. Donc, on voit, il vient absolument de sortir. Donc,
là, il vient juste de sortir sous presse. On m'en a envoyé un exemplaire aujourd'hui même.
Ah, donc, très bien. Mais c'est gentil de l'avoir apporté pour nous le montrer.
Je vais dire, c'était juste pour montrer à mon mari chez moi, mais je suis heureuse qu'il soit montré aussi.
On évoquait tout à l'heure le fait que la presse réservait généralement un accueil plutôt bienveillant au premier roman, prévoyait un espace un petit peu systématiquement dévolu au premier roman, au point que les éditeurs, disiez-vous, en tiennent compte et que c'est même la raison pour laquelle ça les encourage d'une certaine manière à publier des premiers romans. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment de cette... est-ce que c'est un phénomène récent? Est-ce que c'est partagé par tous les journaux? Comment ça se passe, par exemple, au magazine littéraire? Est-ce que il y a quelqu'un qui est spécialisé et qui est particulièrement chargé d'observer la parution des premiers romans?
Alors, au magazine littéraire, en fait, actuellement, il n'y a plus personne en particulier qui est chargé d'observer les premiers romans, mais il y a eu quelqu'un pendant longtemps qui, d'ailleurs, tenait une chronique uniquement consacrée aux premiers romans, quelle que soit la période. Donc, c'est-à-dire aussi bien en période de rentrée littéraire, à l'automne, que le reste du temps. Et il sélectionnait toujours 3 premiers romans chaque mois, systématiquement. Et ensuite, on a décloisonné. Donc maintenant, il y a des premiers romans qui sont traités, mais qui sont traités comme les autres. En revanche, dans l'ensemble de la presse, c'est vrai qu'à certains moments clés, et notamment au moment de la rentrée littéraire, il y a un espace dévolu exprès aux premiers romans. Et de fait, je pense que certains éditeurs aussi... Enfin, c'est devenu un genre à part entière. Et les éditeurs, chaque année, cherchent un premier roman, ou 2 premiers romans, voire 3 premiers romans à présenter. Parce qu'on sait que voilà, le Figaro littéraire fera sa sélection de premiers romans. On sait que l'UMA, maintenant, a mis en place les bonnes feuilles des premiers romans pendant l'été. Donc, il y a à chaque fois une façon de traiter le premier roman. Et régulièrement, c'est devenu un marronnier aussi au sein de la presse, que de traiter d'une manière ou d'une autre au premier roman. Lire, par exemple, l'année dernière, il y a 2 ans, enfin, je ne sais plus exactement, avait suivi un primo-romancier en l'interviewant, en faisant une grande enquête autour de voilà, comment est-ce qu'il avait vécu ça, comment est-ce qu'il avait été trouvé, comment est-ce qu'il avait été édité, ensuite comment ça s'était passé pour lui lors des différents salons, est-ce que le livre avait eu de la presse, est-ce que le livre avait eu du succès. Voilà. Et à chaque fois, chaque année, ça revient d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être comme ça. Le Figaro aussi, à un moment, avait fait les primo-romanciers 10 ans après. Voilà, donc là, c'est la photographie de il y a 10 ans, était publiée. C'était leur sélection de l'époque, dans le Figaro, leur sélection de premier roman. Ils ont fait des statistiques aussi, enfin des statistiques, sur les 10 ou 15 primo-romanciers qu'ils avaient alors sélectionnés, lesquels avaient continué, lesquels avaient arrêté, lesquels étaient devenus connus, lesquels n'avaient, continuaient à publier sans pour autant rencontrer un grand succès. Donc c'est vrai que c'est maintenant un genre à part entière, ce qui en soi n'est pas vraiment fondé en réalité. Voilà, c'est pas fondé, mais c'est devenu une rubrique. Et c'est vrai qu'on nous dit toujours que c'est mieux de sortir son premier roman en septembre, parce que là, il y a de la place dans les journaux pour. Et qu'il y a des sujets sur. C'est une réalité.
Est-ce que ce n'est pas un phénomène un petit peu à double tranchant? Parce que du coup, le deuxième roman, si j'ose dire, puisqu'il y a quand même 50%, comme vous le disiez tout à l'heure, de primo-romanciers qui publient un deuxième roman, le deuxième roman n'est pas forcément attendu avec la même curiosité, donc c'est d'autant plus difficile, non? Je ne sais pas, quel est le point de vue de l'éditeur?
Non, on ne peut pas passer directement au quatrième ou au cinquième roman. Ça, c'est le gros problème d'un auteur qui publie, c'est qu'il y a forcément un deuxième roman. On s'efforce de ne pas être pessimiste, de ne pas décourager les auteurs d'écrire ce deuxième roman. On leur dit tout de même qu'il y a moins d'attention et d'écoute pour ceux, en tout cas, dont le premier roman a très bien été reçu. Voilà, c'est ceux qui ont eu un vrai succès de presse, sinon de vente, parce que là, on arrive vraiment sur une infime minorité de premiers romans. Mais s'il y a eu un succès de presse, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une petite usure sur le deuxième roman. Voilà, il vaut mieux penser comme ça et avoir une bonne surprise, éventuellement, plutôt que de penser que ce sera très facile. Ceci étant, bon, ces catégories de premier, deuxième, troisième, quatrième roman, enfin, un auteur qui publie, c'est ça, de toute façon. Et tous les auteurs de fiction qui sont dans les catalogues des maisons d'édition et dans la littérature, il a bien fallu qu'il publie une première fois. Nous recevons des milliers de manuscrits par an. En fiction, on en retient vraiment une proportion infime, mais si on regarde le catalogue sur les années, les dizaines d'années, tout le monde un jour est arrivé par la poste, tout le monde a déposé son manuscrit dans le casier de quelqu'un, d'un lecteur ou d'un éditeur de maison d'édition. C'est devenu effectivement un produit comme si c'était séparable. On dit premier roman, on dit deuxième roman, c'est simplement le processus de création. De gens qui ne seront peut-être connus que 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard. Et c'est là le vrai problème, ou qui ne rencontreront leur public que 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard.
Dans ce processus de création, Arnaud Bertina, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une interrogation de l'auteur dont il peut penser qu'on attend de lui quelque chose qui ressemblera au premier roman? Si le premier roman a eu du succès, on pense qu'il est dans une certaine voie, dans un certain genre. Est-ce que c'est une difficulté ou pas pour l'auteur?
Ah oui, c'en est une importante. Elle n'est pas formulée. Mais évidemment, dès qu'on amène le second manuscrit, il peut arriver oui, que ça coince. En tout cas, ça a été mon cas très, très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des... Pour mon second livre, en fait, les premiers retours de lecture étaient des retours un petit peu interloqués. Et vraiment, ils avaient le sentiment que j'avais pris une option radicalement différente du premier, que j'avais complètement tourné le dos à ce qu'il y avait plus dans le premier.
Alors qu'on vous attendait un petit peu sur les traces du premier.
Voilà,
oui, implicitement.
C'était
oui.
Ça, effectivement. Oui. Et alors que moi, j'avais au contraire le sentiment très fort d'une continuité entre les deux. Et je peux la démontrer, cette continuité. C'est-à-dire, je peux en parler, je peux dire sur quoi elle s'appuyait très précisément, etc. Mais voilà, il y avait ce sentiment-là. Et donc là, tout d'un coup, on se rend compte qu'effectivement, nécessairement, dès que le premier arrive, eh ben, il y a des perspectives qui sont tracées. Et puis, donc, les gens vous imaginent à tel endroit. c'est effectivement dans le livre, donc c'était raisonnable de m'attendre à tel endroit, mais j'ai voulu m'occuper d'autres choses qui étaient aussi dans le livre et qui n'étaient pas, attendues. Ça s'appelle un contre-pied, je ne l'ai pas fait volontairement.
Oui, oui, bien sûr.
Mais de fait, ça ressemble à un contre-pied au tennis, si quelqu'un a le résultat de Federer contre le suppreneur. Et donc voilà, bah, là c'est très compliqué, parce que de fait, moi, le second manuscrit a même été refusé, disons, pendant 15 jours par Actes Sud, qui était mon éditeur à l'époque. Voilà, tellement il y avait, voilà, ça passait pour une chose totalement incongrue, bizarre, incompréhensible. Et moi, j'étais très très étonné par cette situation-là, c'est-à-dire je pensais au contraire que le champ restait complètement ouvert. Et donc, pour les auteurs, en tout cas, enfin, disons, je vais parler en mon nom propre, quoi, je suis très très soucieux d'essayer d'être en mouvement en permanence de livre en livre et que chaque livre puisse attester que justement je suis en mouvement. Et effectivement, ce mouvement-là, il est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur de la chaîne du livre qui voudraient pouvoir un petit peu thésauriser justement sur une identité d'auteur, etc., sur un parcours, sur une œuvre dont on puisse parler assez facilement, etc., etc. Et voilà, quand on a d'autres soucis ou d'autres envies, voilà, là ça coince. Et donc les problèmes que j'ai rencontrés sur le deuxième, je les ai à nouveau rencontrés sur le troisième. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai changé d'éditeur.
Ah oui, à ce moment-là, Mine, vous vouliez intervenir.
Je voulais juste dire que je voulais nuancer un petit peu le propos d'Arnaud, dans le sens où, voilà, je pense à quelqu'un comme justement chez Actes Sud, Mathias Sennhardt, qui a fait quelque chose de très différent sur son dernier livre, Zone, par rapport à, disons, son premier, La perfection du tir. Donc il peut arriver aussi qu'en pratiquant un peu ce contre-pied, d'ailleurs il y a une continuité aussi dans ses livres, mais... Cela dit, il y a quand même, il a pris tout d'un coup l'option d'un livre très gros, avec une ambition plus ample, voilà, avec le flot du XXe siècle, à irriguer tout d'un coup sa prose. Il a pris l'option aussi un peu plus expérimentale que ce qu'il avait fait précédemment, d'une seule phrase pour faire tout le livre. Et ça a payé. Ça a payé aussi dans l'autre sens. Donc de faire un contre-pied absolu peut parfois aussi peut poser des problèmes, c'est vrai. Au sein de la chaîne de l'édition, puis même au sein de la presse, dans la réception de les journalistes qui suivaient un tel, qui d'un coup retrouvent plus ce qu'ils étaient habitués à retrouver, peuvent ne pas aimer et donc pas suivre. Et pareil pour les lecteurs. Mais il y a aussi ce contre-pied-là qui existe et qui parfois peut être payant. Et je pense à quelqu'un comme moi aussi, qui va publier à la rentrée Antoine Audouard, voilà, qui a choisi une option radicalement différente de ce qu'il faisait là, ou même Jean-Yves Sandré, là, qui publie un livre chez Actes Sud à la rentrée. Bon, il faisait beaucoup d'autofiction jusqu'ici, et là, il a décidé de trancher complètement avec ça, et il a pris un autre thème, et ça marche aussi. Voilà.
Il était déjà identifié comme auteur.
Donc, bien sûr, il était identifié comme auteur.
C'est beaucoup moins bouleversant dans ce cas-là. Je veux dire, on s'imagine, voilà, qu'il rentre dans une autre période de son travail, et c'est pas le... Tandis que pour le second, si déjà là il y a déjà du tremblement, si déjà là il y a du flou, si déjà là on joue avec les limites identitaires, quoi, ça devient compliqué.
Bertrand Legendre, est-ce que c'est un aspect que vous avez plus ou moins abordé dans votre étude, enfin dans vos interrogations auprès des auteurs? Parce que l'auteur qui change radicalement, c'est peut-être celui justement qui affirme sa capacité d'écrire, de véritablement devenir écrivain. Celui qui écrirait sympathionnellement, pardon, le même premier roman, plus ou moins avec des variantes. Bon,
on n'a pas... substantiellement travailler sur les contenus d'écriture, hein, de ces auteurs. C'est des choses qui viendront dans les prolongements attendus de cette étude. Ce qui apparaît très clairement dans tout cela, c'est une accélération de la construction de la figure d'auteur. Dans ce phénomène premier roman depuis quelques années, je ne saurais pas dire combien, une dizaine, un peu plus peut-être. Hein.
Le festival a 20 ans, donc 20 ans, il y a déjà 22, c'était la 22e édition. Hein, oui.
Mais il était moins célèbre il y a 20 ans quand même.
Hein. Ah, quand même, oui, oui.
Donc on voit une accélération par les médias, par les festivals, par l'audience également, ou l'attention que les libraires peuvent porter également à ces auteurs, une accélération de la construction de cette figure d'auteur romancier, qu'il faut comparer avec un processus antérieur où le primo romancier était jeté à la mer et était prié de gagner le rivage par ses propres moyens pendant un certain temps, parfois très long. Donc ceci accélère fortement la construction du primo-romancier, mais ça ne veut absolument pas dire, comme vous le disiez tout à l'heure, que cette figure est durable. Elle reste extrêmement fragile, et c'est tout ce travail de transformation d'un primo-romancier un peu médiatisé, plus ou moins médiatisé, en un auteur qui s'inscrit dans la durée, qui s'affirme comme l'auteur d'une œuvre littéraire, et non plus l'auteur d'un ouvrage unique, c'est quelque chose qui continue à demander évidemment du temps. Et la médiatisation ne transforme pas du tout cet aspect-là.
Est-ce qu'il y a un système de parrainage qui a déjà existé dans la littérature? Par exemple, est-ce qu'un auteur confirmé d'une maison d'édition peut donner son espèce de parrainage à un jeune auteur? Je pense, moi j'avais été très frappé par exemple de voir le premier roman, alors là ça remonte il y a plus de 20 ans je pense, hein, de Philippe Delerme par exemple, qui n'avait pas eu un grand succès, qui s'appelait La cinquième saison, qui était paru aux éditions du Rocher, et qui avait eu quand même une espèce d'accueil très élogieux de Le Clésio. Alors c'était une belle façon de se lancer dans la carrière. En même temps, je dois dire que cet auteur a publié dans la relative indifférence pendant des années et des années avant de rencontrer le succès. Il a fallu très très longtemps, donc apparemment un éditeur a dû croire en lui, ou peut-être ce coup de pouce de départ lui a été très utile. Je pense à l'anecdote célèbre de François Mauriac lançant Une curieuse solitude de Philippe Soler. C'est une rencontre un peu inattendue, mais de fait, c'est ce qu'il a lancé dans la carrière. Alors, est-ce que ça se produit toujours? Est-ce qu'un éditeur recherche éventuellement ce genre de parrainage, veut que ces jeunes auteurs soient adoubés par des auteurs confirmés?
On peut produire des rencontres, notamment au sein de la même maison d'édition, c'est-à-dire faire lire des premiers romans à des auteurs confirmés avec lesquels on travaille. En général, l'intérêt, c'est que ça se passe par voie de presse, c'est qu'il y a un papier.
Oui, bien sûr, qu'il soit officiel, en quelque sorte.
C'est la voie très classique qui existait déjà au début du siècle. Hein. Oui. Alors, il y a peut-être moins maintenant de revues qui sont animées par... Il y a des revues animées par des écrivains, mais enfin... Le système a changé, c'est-à-dire que le système d'adoubement comme ça des nouveaux par les anciens se fait de façon plus tortueuse, plus imprévisible et plus rare quand même. C'est vrai que le métier de critique est assumé par
des journalistes,
plutôt que par des écrivains dont le principal métier est l'écriture. Voilà, c'est les journalistes écrivains. Sont forcément nombreux et parfois de très bons écrivains, mais ceux dont le principal métier est l'écriture sont rarement dans les rédactions des journaux.
Oui.
Mais ceci dit, ce système existe bien sûr. Oui.
Véronique Bourlon, je voudrais qu'on revienne au fonctionnement des comités de lecture parce que la scène...
Je peux rajouter une petite chose par rapport à ce que dit Philippe Garnier. Cette année, on a donc renouvelé un peu la formule au niveau du festival, et donc on a demandé à certains auteurs plus affirmés ou confirmés, bref, de revenir. Et donc, ce qui était important pour moi, c'est de me dire, allons au bout de... Est-ce que c'est une mission? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, de notre travail, de se dire, voilà, on essaye avec ce festival et tous ces lecteurs... de faire, de mettre un petit coup de projecteur sur une quinzaine d'auteurs de premiers romans. Il me semblait que pour aller plus loin encore, on pouvait essayer de faire se rencontrer, qu'il y ait des croisements entre auteurs de premiers romans, en tout cas débutant un parcours littéraire, et puis auteurs confirmés qui connaissaient en plus le festival, et avec toutes ses spécificités, c'était quand même plus... il me semblait plus évident. Et il y a eu des très très belles rencontres. Ce que je veux dire, c'est qu'on a reçu des coups de fil ou des mails de certains auteurs plus confirmés qui nous disent « Mais donne-moi les coordonnées d'un tel parce que ça a été une magnifique rencontre et j'ai quelque chose à lui proposer.
Ah » oui.
Je ne peux pas vous dire...
Oui.
Qui, avec quoi et quelle proposition. Mais
devenait intéressant.
Oui, certes. Mais en tout cas, le pari est gagné aussi. C'est-à-dire qu'il s'est passé, je crois qu'il y a eu des très belles rencontres et des pendant le festival, et il y aura peut-être des choses qui vont se poursuivre. Alors, peut-être pas sur un plan médiatique, mais au niveau du travail de d'écriture, quoi. Oui. Ou un, voilà.
C'était juste. Alors, oui, vous avez eu ce sentiment, Arnaud Bertina. Enfin, sans vouloir commettre une indiscrétion, mais puisque je vais quand même en commettre une, j'ai assisté précisément à une rencontre entre Isabelle Jarry et vous-même. Et alors, vous êtes deux auteurs confirmés, ils ont été invités à Chambéry il y a déjà un certain temps, Isabelle il y a plus longtemps que vous. Et alors, c'était très étonnant parce que tout à coup, on a l'impression que vous découvriez les affinités, y compris dans le texte même, parce que dans Ma solitude s'appelle Brando, on trouve par exemple au moins une petite allusion à Théodore Monod qui a été un ami très cher d'Isabelle Jarry et qui parle beaucoup de lui. Enfin voilà, il y avait toutes sortes de rencontres, on avait l'impression presque d'une réunion de famille, quoi.
Non, là, il se trouve qu'avec Isabelle, on s'était croisés dans une précédente rencontre peu de temps avant et qu'on avait bien sympathisé. Donc voilà, c'est pareil, il y avait quelque chose de très cordial d'emblée avant même la lecture des textes. Et puis moi, j'essaye toujours, dans la mesure du possible, de lire les livres des gens avec qui je vais être interrogé. Donc là, c'était le cas. J'avais lu le dernier livre d'Isabelle. Et donc voilà, ça permet tout de suite de voir des connivences et de voir des points communs. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait de fréquenter un peu le milieu littéraire et de participer à des rencontres comme ça, c'est justement de sortir de l'idée qu'en tant qu'auteur ou en tant qu'artiste, voilà, j'aurais une espèce de singularité absolue. Je trouve cette idée très très pauvre, beaucoup trop romantique pour être honnête. Et ce qui m'intéresse au contraire quand je rencontre justement mes contemporains, ceux qui écrivent en même temps ou ceux qui peignent, etc., c'est justement de trouver des points communs. C'est-à-dire de me dire, tiens, je ne suis pas seul à essayer ce genre de choses, je l'ai trouvé aussi dans tel autre livre. Je ne suis pas seul à tenter ce genre de rythme, je l'ai trouvé chez un tel ou chez une telle, etc. Ça, je trouve ça très très intéressant parce que tout d'un coup, je me dis, tiens, il y a ce truc-là qui sera peut-être dans 20 ans un trait d'époque. Et ben voilà, j'étais dedans, j'étais pris dans cette espèce de mode, disons, pour aller vite. Et ça, je trouve ça très très intéressant parce que tout d'un coup, ça permet de nommer certaines choses. Et donc, si on les nomme, ça permet soit de les complexifier encore, soit au contraire de s'en détacher. Enfin bref, je trouve ça très intéressant. Donc oui, moi, j'aime toujours ce temps de rencontre-là et j'aime toujours aussi le temps de lecture qui précède ces rencontres-là. Je trouve que c'est nécessaire à l'écriture de savoir ce que font vos contemporains autour de vous. Et c'est justement pour ça qu'avec des amis, on a une revue.
Précisément, vous aimez beaucoup, vous travaillez en commun, en collaboration, avoir une sorte travail d'équipe un peu.
Voilà, on pousse le truc un peu plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement on travaille la question de l'écriture collective, on écrit des romans ensemble, on écrit des essais sur la littérature ensemble, et puis dans le cadre de la revue, on fait des dossiers sur des sujets qui peuvent être des sujets de sciences humaines ou de philosophie ou autre, on travaille la question de l'écriture collective, mais même sans aller jusque-là, qui est vraiment une chose un petit peu étrange. L'espace de la revue, c'est justement un espace où on va pouvoir inviter d'autres auteurs, où on va pouvoir parler de leurs livres nous-mêmes, parce qu'on essaye d'avoir aussi cette plume critique-là, qui est détachée des questions qui sont celles de la presse. Et on essaye de mettre en circulation des textes qui nous semblent très riches, très intéressants, qu'ils soient français ou autres, qu'ils soient de premiers romanciers, de primo-romanciers ou d'auteurs beaucoup plus confirmés auxquels on a envie de rendre hommage. Enfin voilà, cette circulation-là, disons cette espèce de générosité, elle nous tient très à cœur. Elle me semble très très importante pour essayer de nourrir mon propre travail, quoi.
Ah oui, et effectivement, dans ce cadre-là, un festival comme celui de Chambéry peut parfaitement jouer ce rôle. Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, Véronique Bourlon. Je vous posais la question de ces comités de lecture, parce qu'il doit y avoir une évolution. On voit que la situation, le paysage du premier roman a évolué, mais les comités de lecture aussi ont dû évoluer, parce qu'ils se sont lancés il y a 22 ans dans cette opération sans armes particulières, et puis j'imagine qu'avec le temps, précisément, l'habitude de travailler sur les textes, avant même de connaître les auteurs, ça a dû créer des évolutions.
Oui, ça crée obligatoirement des évolutions au niveau de l'appréhension de la lecture, et en particulier de la lecture de premiers romans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on lit beaucoup de premiers romans, enfin moi la première cette année, j'avais de temps en temps besoin d'aller reprendre un
relire
peu aussi, soit des classiques, soit de retrouver des auteurs que j'apprécie ou en découvrir d'autres ou partir en littérature étrangère. Enfin, mais parce que c'est une lecture particulière. Quand on discute avec des lecteurs, il y en a certains qui sont là dans la salle, il y a vraiment le souci de se dire on essaye dénicher voilà, un nouvel auteur ou... Mmh. Alors, dans un premier temps, c'est parfois simplement un nouveau plaisir de lecture parce que c'est une nouvelle histoire, c'est un nouvel univers ou c'est juste simplement voilà, une histoire qui plaît, qui fait plaisir, où on sort, on est bien ou bien on n'est pas bien mais enrichi, enfin bon. Et puis effectivement, avec les années aussi, j'ai envie de dire que le roman a bougé en lui-même. Est-ce qu'on peut parler encore du genre en soi de roman, sachant qu'aujourd'hui, les frontières entre la fiction, le récit, l'autofiction, la narrative non-fiction, et j'en passe des meilleurs, et le storytelling et autres, voilà, font bouger aussi la lecture de ces romans, parce que ces romans bougent. Aujourd'hui, on n'est plus seulement... Alors peut-être que... Voilà. En tout cas, on n'est pas seulement dans une histoire, dans une intrigue et dans de la fiction. On peut... Il y a aujourd'hui des... Voilà, dont Arnaud, par exemple, mais bien évidemment plein d'autres qui ne s'intéressent pas seulement à l'histoire, à l'intrigue, à des personnages. Et donc ça, c'est une évolution que les lecteurs doivent voilà, prendre en cours bien de sûr. Route. Et parfois, ça étonne, bien évidemment, ça dérange. On n'arrive plus à se raccrocher à une histoire, il n'y a plus vraiment de personnages. On s'intéresse à des petites choses et il y a une non-action. Et les lecteurs font aussi, je crois, ce travail d'aller vers l'inconnu et vers des textes, en tout cas, des paroles.
Oui, enfin, toutes ces écritures nouvelles dont parlait Arnaud, voilà. Effectivement, oui.
Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, effectivement, en 22 ans, obligatoirement, ces lecteurs ont bougé avec ce genre qui est en mouvement, quoi. Oui.
Alors, Mine, je ne vais pas faire une attaque contre la presse, mais est-ce que justement, une des vertus de ce genre d'opération, du Festival de Chambéry, c'est d'avoir des lecteurs, d'avoir un véritable jury de lecteurs ? Parce que j'imagine que pour un écrivain, ça doit être particulièrement gratifiant d'être reconnu par des lecteurs. C'est peut-être pas tout à fait la même reconnaissance que d'être reconnu par la presse, par exemple. Ça ne joue peut-être pas tout à fait le même rôle. Et on sait que les prix de lecteurs, par exemple, ont beaucoup d'impact, de plus en plus d'impact, par rapport aux prix littéraires traditionnels dont on soupçonne, qui ne sont pas toujours, qui sont un peu arrangés, disons, pour... voilà. Non, je disais les choses d'une manière légère, mais puisque vous avez décidé d'enfoncer le clou, Arnaud, allons-y. Donc, effectivement, recevoir un prix, ça peut être quelquefois, on peut dire que c'est un petit peu manigancé, être reconnu par des lecteurs, c'est complètement autre chose. Est-ce que vous faites une différence en tant qu'auteur ? Et je voudrais aussi avoir votre réaction en tant que journaliste.
Vous voulez me piéger, quoi.
Oui, je veux vous piéger, exactement.
C'est vrai qu'on peut constater une chose, c'est que le rôle prescripteur de la presse est beaucoup plus modéré que, je pense, il y a quelques années. Et il y a un soupçon de collusion vis-à-vis de la presse avec le milieu éditorial. Qui n'est pas néanmoins entièrement fondée. Je vais quand même préciser ça. C'est vrai qu'on dit, moi je rencontre beaucoup de gens qui me disent que bon, il y a quelques années, le monde des livres par exemple, c'était vraiment une référence et on faisait les tables des libraires en fonction du monde des livres. Mais c'était il y a vraiment plusieurs années et aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà, tout simplement. Vous pouvez faire la une du monde des livres et ne vendre aucun livre. C'est un fait. Et c'est pareil pour... c'est dû à plein de choses. Hein. C'est dû au fait que déjà, il y a beaucoup plus de canaux. Auparavant, je pense à Internet, mais je pense aussi c'est même ça. À la radio. La radio est encore très écoutée. Je pense que la radio est plus écoutée, en fait, que la presse écrite. Même la télé, je pense, qui était prescriptrice à un moment avec les émissions, même des émissions grand public comme celle de Ruquier, où il y avait parfois quand même un ou deux écrivains égarés. Aujourd'hui, les émissions littéraires... il n'y en a plus tellement, elles sont à des heures indues et elles ne font plus vendre. Enfin, vraiment, aujourd'hui, c'est ça. Quoi. C'est un constat depuis Pivot, grosso modo, de toute façon, voilà, on sait que la télé ne fait plus tellement vendre les livres ou alors vraiment de manière plutôt marginale par rapport à l'impact réel qu'elle a. enfin l'impact apparent qu'elle a. Et donc il y a plusieurs canaux. Est-ce que Internet est tellement plus prescripteur? J'en suis pas sûre non plus, parce que c'est aussi très diffus. Il y a plein de blogueurs, il y a plein de sites. Voilà. Et si finalement ça marche plutôt en circuit fermé sur un site où il y a peut-être une quinzaine de personnes qui viennent régulièrement, ou là, je parle pas évidemment du blog de Pierre Assouline qui lui à mon avis doit être prescripteur vu sa diffusion, mais c'est plutôt au coup par coup. Et ça, d'ailleurs ça complique pas mal le travail, je pense, aux attachés de presse qui savent plus à qui donner le livre à lire. Et cela dit, il y a un avantage qu'a le Festival Chambéry aussi par rapport à la presse de manière générale, c'est qu'ils ont plus de moyens du point de vue de la lecture. C'est-à-dire que vous avez que les premiers romans qui sont lus.
Oui. Je parlais pas de manière financière. On est très surprise à l'idée d'avoir plus de moyens.
Plus de moyens, oui, parce que oui. Vous avez plus de lecteurs qui lisent les livres. Au sein d'un magazine, vous pouvez pas mettre 5 critiques sur un roman. C'est impossible. Oui. Oui. Vous avez un critique, il lit le roman, il l'aime pas, le roman est éliminé. Rarement, éventuellement, si jamais l'auteur est déjà confirmé, il y a une deuxième lecture. Mais il n'y aura jamais 3 lectures, par exemple. Oui. Ce n'est pas possible.
Oui, donc finalement,
on ne peut pas payer, nous, on ne peut pas payer ça, surtout vu la crise. Voilà. Et les pigistes eux-mêmes, ils ne l'acceptent pas non plus. Voilà, ils n'ont pas le temps de se consacrer à... Donc eux, ils ne peuvent pas faire ça. Et même... Donc, tandis qu'effectivement, quand on a un certain laps de temps, en plus, nous, on est pris dans le temps. Voilà, là, même là, on est sur la rentrée de septembre, on est tous en train de le lire et on est en train de cravacher. Vous connaissez ça, Gérard ? Voilà, on est comme des baudets en train de lire à tout va pour essayer de trouver ceux qui vont vraiment sortir parmi les découvertes. Bon, ceux qui vont sortir à coup sûr, on le sait déjà, rien que par le nom. Mais effectivement, dans tous les nouveaux livres, dans tout le flot de nouveaux livres qui arrivent, il faut aussi les lire. Oui. Et ça, donc la presse aussi n'a pas les mêmes facultés de repérage dans ces moments-là, parce que tout simplement, c'est pas comme la presse, par exemple pour le cinéma, c'est assez simple, entre guillemets, c'est que tous les films quasiment ont droit à un article. Voilà. Il est bon,
oui.
Il est mauvais.
Oui,
mais
c'est vrai. Oui.
Tous les livres n'ont pas droit à un article. Et certains livres ne sont pas lus. Il est rare qu'aucun film ne soit absolument pas vu. Voilà. Un livre, lui, il peut ne pas être lu. Parce que 700 livres, bon, à la rentrée, il y en a combien qui vont être traités? J'en sais rien, peut-être 100. Voilà. Et qui vont vraiment sortir 30. Voilà. Donc, et bye bye pour les 600 autres. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais la presse s'organise aussi entre elles. C'est-à-dire que moi j'ai des collègues qui travaillent pour d'autres journaux et on se passe aussi le mot. Si jamais, bon là, par exemple, on sait déjà qu'il y a un buzz sur un premier roman de 800 pages au Seuil. Voilà, les uns et les autres se passent le mot aussi quand l'un a lu et ils diffusent aussi à d'autres personnes et ils essayent de créer le buzz éventuellement. Et voilà, donc ça marche comme ça, mais on est beaucoup moins nombreux même au total que, par exemple, tous les lecteurs de Chambéry pour lire les premiers romans.
Voilà, finalement, c'est rassurant. Vous avez des moyens formidables, voyez.
Mais c'est parce que ça repose sur la passion, dans le cas de... Oui. Nous, c'est déjà un système institutionnalisé, il y a un salaire, il y a...
Voilà. Je voudrais bien avoir le point de vue de l'éditeur. Qu'est-ce qui fait vendre un premier roman ? Mine dit que ça n'est pas la presse, que ça n'est pas non plus Internet, c'est pas...
C'est tout ensemble, et c'est le soutien des libraires aussi. Et qui est encore autre chose, qui n'est...
La prescriptrice très forte aujourd'hui. Alors, non, je disais que, de fait, les libraires, effectivement, ils ont un rôle extrêmement fort.
Et les libraires ne sont pas du tout à la suite de la presse et des autres médias. Il faut un volume comme ça de soutien qui peut passer par Internet. Alors chaque livre aura un peu sa route à l'intérieur. Il y en a qui auront des gros médias, d'autres de plus fins, plus dans des niches comme ça. Il y a des livres, alors c'est très très compliqué parce qu'il y a des livres qui trouvent leur public très tard. Des premiers romans qui sont... alors, en fait, on parle là... Non, le premier roman reste trop peu de temps.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a une durée très très faible quand même.
Là, je parle des romans en général, pas du premier roman. Restons sur le premier roman, ce qu'il y a des... Une chance de le promouvoir, c'est un volume de recensions et de chroniques qui passe maintenant par tous les supports possibles. Il y a un moment où la rumeur est suffisamment établie, les libraires en ont entendu parler, le soutiennent, c'est notre travail aussi avec les libraires. En fait, je pense que notre travail d'éditeur est beaucoup plus émietté qu'il ne l'était il y a 30 ans. C'est une époque où je n'ai pas connu le métier, mais enfin on me l'a beaucoup raconté, je le voyais fonctionner. Il y a 30 ans, ou il y a encore 20 ans peut-être, il y avait beaucoup plus d'autoroutes médiatiques, très sélectives, très, très partiales, mais dans lesquelles certains livres s'enfournaient et on avait le résultat pratiquement à coup sûr. Maintenant, rien n'est sûr.
C'est-à-dire qu'il faut utiliser tout. Tous les moyens sont bons. Il faut inventer des nouveaux types d'événements. Et le résultat, il y a une part d'aléatoire. C'est beaucoup moins maîtrisable, je pense, qu'il y a une vingtaine d'années.
Alors, on a évoqué le rôle des libraires. On n'a pas, malheureusement, Jean-Marie Ozanne n'a pas pu nous rejoindre, mais je sais qu'il y a des libraires dans la salle, et même des auteurs de premiers romans libraires. Je ne sais pas si ce serait bien d'avoir le point de vue aussi des libraires. Est-ce que par exemple, la librairie fait, elle aussi, une place particulière au premier roman? Est-ce qu'il y a une table particulière? Alors, voilà, Karine Henry, vous êtes libraire, vous tenez la librairie comme un roman à Paris. Et vous êtes aussi auteur d'un premier roman. Mais là, c'est l'avis de la libraire que j'aimerais bien avoir.
C'est assez schizoïde, mais c'est pas grave. Oui, bien entendu qu'il y a une place accordée au premier roman qui n'est pas... on n'a pas une table premier roman, non, absolument pas. D'ailleurs, je pense que les lecteurs seraient méfiants. Donc ça serait presque une, entre guillemets, une stigmatisation qui serait dangereuse. Je pense qu'en septembre, effectivement, comme la presse, on fait plus attention. Mais... je pense qu'une des meilleures rentrées, en tout cas, je voulais simplement revenir là-dessus, en librairie, et pour les livres en général, les premiers romans, c'est clairement janvier. En septembre, il faut bien dire que ça n'est pas une rentrée. Il y a les premiers romans qui sont attendus, mais en janvier, il y a les mastodontes, quoi, en fait, aussi, qui sont réservés sous le coude des éditeurs et qui sortent à ce moment-là. Et bien souvent, il y a une collision terrible et il y a énormément de dégâts à ce moment-là. Et c'est là où effectivement, la presse ne peut pas tout faire. Il y a une production terrible. Les tables ne suffisent pas à tenir tout cela. Donc, il y a un travail de sélection qui ne va pas être le même que celui de la presse, en tout cas pour les libraires.
Qui ne va pas s'en inspirer forcément.
Non. Oui. Bah si, bien sûr que si. Il y a un va-et-vient entre les deux. Oui. Mais maintenant, c'est comment le lecteur arrive dans la librairie. Le lecteur arrive dans la librairie, il a des habitudes dans la librairie. Et il n'a pas forcément la presse sous le bras. Et c'est à ce moment-là qu'il va demander, dans la profusion, première chose, le premier réflexe en rentrant de vacances en septembre, si quelqu'un aime rentrer dans sa librairie, eh bien, c'est de dire alors, il y a quoi de neuf? Voilà. Et c'est au libraire de dire ceci, cela, etc. À partir du moment où un roman est repéré, un premier roman est repéré par plusieurs libraires, il a une chance de s'en sortir. Mais alors, une chance immédiate et concrète. Et il n'y a plus. Alors que par la presse, il y a passer la presse, que la presse ait contact avec le client ou avec le libraire, etc., et que le libraire le retransmette au client. Enfin, voilà, quand le libraire s'en... Moi, je le vois très bien. On peut faire des très belles choses avec un premier roman. Moi, en tant que libraire, quand j'ai commencé la librairie en 2001, en fait, j'ai découvert le livre d'Arnaud Bertina, en fait. Et c'était un de mes premiers romans. Voilà, un libraire qui découvre un premier roman, c'était le cas. Moi, je savais pas. Arnaud Bertina, je l'ai reçu à la librairie. J'ai fait un travail, tout ce que j'ai pu pour ce premier roman. Voilà. Et ça, c'est un parrainage.
Ah, c'était toi?
Ben oui.
Oui, effectivement, c'est le parrainage.
Ça n'a pas fait grand-chose si ce n'est que ce premier roman existait pour quelqu'un, en tout cas, et il était sur des tables. Et ça, c'est énorme. Enfin, c'est énorme pour. Et forcément, on passe concrètement. Donc, effectivement, je pense que le libraire aujourd'hui a un rôle très concret, physiquement, parce qu'il permet au livre d'exister, et également, il permet de faire un travail de sélection dont a besoin aujourd'hui le client, parce que c'est. Enfin, voilà, on est dépassé, le client est dépassé. Et bon, c'est vrai que janvier, quand même. Plus confortable pour les premiers romans, c'est évident, quoi. Évident. Maintenant, moi, j'aspire à une troisième saison, à une troisième rentrée. Ouais, mais elle n'est pas médiatiquement, elle n'existe pas et elle n'est pas encore repérée véritablement.
Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Karine Henry en tant que libraire. Juste parmi les 14 auteurs qu'on a reçus à Chambéry là, il y a 15 jours, au mois de mai. Comme ça, là, je viens de faire un petit calcul de tête. Je crois qu'il y en avait environ 8 ou 9 qui n'ont vraiment, en discutant avec eux, n'ont vraiment pas eu de presse, la presse avec eux. C'est-à-dire que sont passés relativement inaperçus dans la presse. Et donc ces auteurs-là, à chaque fois, nous ont dit ou m'ont dit, en fait, ce qui m'a sauvé, ce sont les libraires. C'est-à-dire qu'il y a un bouche à oreille qui s'est créé chez un libraire. Souvent, il y en a un qui m'ont dit, plusieurs auteurs m'ont dit, ah oui, mais alors moi, j'ai un libraire qui me soutient à fond. J'y vais 4 fois par an. Enfin bon. Et en fait, le buzz, entre guillemets, il est venu par les libraires pour plus de la moitié des auteurs invités, quoi.
Voilà, vous devez votre carrière à une libraire, en fait, à Karine, c'est ça, c'est le...
Non, oui et non. C'est-à-dire que oui, au sens où effectivement c'est nécessaire d'être soutenu comme ça par quelques personnes. D'autant que, en fait, moi j'ai des fois l'impression que toute une partie de la chaîne du livre prend le lecteur moyen pour un gogo, un petit peu, quoi. C'est-à-dire que je sais pas, il y a comme si, vous savez, des fois il y a des mauvaises synergies. Et là, de temps en temps, j'ai un peu cette impression-là. Moi, j'ai le sentiment contraire, en fait, à accumuler les rencontres avec les lecteurs, etc. J'ai le sentiment au contraire qu'il y a une intelligence comme ça qui est disponible et qui est souvent un peu sous-employée. Et les journalistes qui font un travail magnifique et les libraires qui font un travail magnifique, ce sont ceux qui assument le plus leur propre choix, leur propre goût, quoi. Y compris justement quand ils vont quand leur propre goût les amène vers des livres peut-être difficiles, peut-être étranges, peut-être pas du tout normés, etc. Et là, dans ces cas-là, je pense que le client de la librairie sait exactement à qui il a affaire. Donc il sait quand il refuse, il sait quand il accepte. Voilà, il sait exactement ce qu'il refuse et ce qu'il accepte. Et c'est beaucoup plus clair. Les choses sont beaucoup plus claires. Tandis que quand on commence à raisonner justement dans l'absolu par rapport au lecteur avec un grand L, etc. Oui. Là, dans ce cas-là, on se met à raisonner par rapport à une espèce de moyenne très très floue. Et donc oui, effectivement, moi j'ai eu la chance, pour le premier comme pour les autres, j'ai eu la chance d'avoir des libraires qui me soutenaient, aussi certains journalistes qui me soutenaient. Et voilà, ça fait que même avec des livres un petit peu particuliers, au magazine par exemple, au Matricule des Anges aussi un petit peu, à Libération, enfin etc. Bref, voilà, il y a certains journalistes et certains libraires qui, voilà, peut-être pas systématiquement, mais qui souvent me... Mais c'est pas gagné, effectivement, oui. c'est pas gagné du tout, parce que ce que je fais est un petit peu bizarre.
Oui, enfin, ce que font tous les écrivains, en principe, non, c'est toujours un peu bizarre, a priori. Oui, Amine.
Oui, non, je voulais dire que... Il y a aussi que les critiques, ils ont aussi un profil. Donc je pense que c'est aussi la différence, par exemple, entre les lecteurs de Chambéry, où c'est vaste, ça recoupe beaucoup de catégories, et les critiques, le critique littéraire, il y a un profil. Quand on croise les collègues, on sent bien aussi. Et c'est pour ça que parfois, le goût, d'ailleurs, de la presse n'est pas le même que celui, par exemple, du festival. Mais je pense aussi et parfois pas même d'ailleurs que celui du lecteur. Je me rappelle d'effets de mode, j'en sais rien, sur Eric Reinhardt, par exemple, sur Cendrillon. Bon, dans toute la presse, il y avait eu buzz et tout le monde a fait pleine page, pleine page, pleine page, pleine page. Ça a aidé quand même le livre, évidemment.
Oui, j'imagine.
Voilà. Ça a poussé beaucoup le livre, mais je crois qu'au final, ce qu'on disait, c'est que le livre était à 30 000 exemplaires après retour. 30 000 exemplaires, c'est très bien. Évidemment, c'est très bien. Par rapport à tout le buzz qu'il y avait autour, c'est pas beaucoup. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe maintenant aussi. Et là, par exemple, le premier moment, est-ce qu'il y avait Tristan Garcia cette année ou...
Des auteurs qui n'ont pas été retenus par les lecteurs.
Alors qu'en presse,
Tristan Garcia a eu il y a eu un petit phénomène presse autour de la sortie de son livre. Ouais. Et puis, pour différentes raisons. Ça se passe à Paris, dans les années 80, le milieu des les années SIDA.
Je pense que ça a accroché certains critiques qui, du coup, l'ont porté. Mais effectivement, de manière plus vaste, je ne pense pas que c'était un succès de librairie que le livre de Tristan Garcia. Donc il y a aussi ce décalage qui existe. Alors après, cela dit, le rôle de la... Alors pour le coup, en tant qu'auteur, moi, c'était intéressant parce que mon livre a mis un peu de temps avant d'être lu par mes collègues, parce que de manière générale, en fait, écrivain journaliste n'est pas toujours bien vu, notamment précisément par les journalistes, sauf si vous pratiquez vraiment de manière intensive le renvoi d'ascenseur, auquel cas c'est parfait. Mais supposons que vous ne pratiquiez pas le renvoi d'ascenseur, et ben ça va très mal pour vous. Et donc, premier temps, je me rappelle, en septembre, j'étais tout à fait désespérée parce que non seulement je n'avais pas d'annonce de papier, mais j'avais même pas de retour. Donc mon attaché de presse était en train de s'excuser en me disant « Écoute, je suis désolé, personne ne l'a lu là, personne n'a lu là. » Non, il n'a pas, été ouvert. Donc, bon, dépression. Et puis, bon, et par bonheur, il y avait les libraires. Et alors donc, quand en septembre, bon, le livre sort, enfin, fin août, le livre sort. Et en fait, il y a eu deux réimpressions avant même qu'il y ait le moindre papier, sauf, si on, sauf sur le net où il y avait des petites choses. Mais voilà, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'article. Et donc là, j'ai pu d'ailleurs amèrement mesurer le rôle de, moyennement prescripteur de la pièce, oui, de la presse. Voilà. Mais en revanche, ce qui s'est passé ensuite, bon, il y a eu une enquête dans Livre Hebdo, et puis bon, sur les livres préférés des libraires, et puis bon, il était assez haut dans le classement. Et à ce moment-là, ça a déclenché quelque chose. En revanche, donc tardivement, il y a eu la presse quand même sur le livre, mais il y a eu tardivement, genre vers octobre, enfin fin octobre, début novembre, là, on a commencé à avoir un peu de presse. Et le fait que cette presse sorte à ce moment-là, elle a quand même appuyé le livre. Donc, je me rappelle qu'il y a un jour, il y avait eu un article dans Match, Le Nouvel Observateur et Marie-Claire, c'est sorti le même jour. Et là, on l'a vraiment pu voir, la courbe. Voilà, tout d'un coup, les ventes ont monté. Donc la presse, elle a quand même un rôle. La concentration, comme ça, c'est un hasard et ce n'était pas concerté, mais c'est tant mieux pour moi, en l'occurrence, tant mieux pour le livre. Mais du coup, ça se voit quand même. Donc il y a. Après, la presse toute seule, elle peut faire un succès quand même. Le livre d'Éric Nerdat était un succès, 30 000, c'est pas si mal. Et elle suffit peut-être pas, effectivement, à faire un best-seller comme autrefois. Et en revanche, il peut tout à fait avoir des succès sans la presse. Et ben, d'ailleurs, on l'a vu, les plus gros succès de ces dernières années, c'est par les libraires, c'est pas par la presse. Et même, je pense à un livre que personnellement j'ai adoré, qui était Le cœur cousu de Carole Martinez. Oui. Quand elle a sorti son livre, il y avait littéralement 4 articles de presse qui sont sortis sur le livre au moment où il est paru. Et elle était absolument désespérée au bout d'un mois. Moi-même, j'avoue que j'ai lu son livre très tard. Personne ne m'avait alerté dessus. Personne ne m'avait alerté aussi bien dans le milieu littéraire que d'ailleurs du côté du service de presse de Gallimard, je dois le dire. Mais bon, elle a trouvé quand même son public. Et là, elle a été d'ailleurs invitée à Chambéry. Ensuite, et elle a fait, grâce au bouche à oreille, une carrière tout à fait impressionnante. Elle a fait 44 000 exemplaires en brochet. Et là, c'est sorti en folio. C'est sorti en mars. On est en mai. Il y a plus de 72 000 exemplaires de sortie. Oui. Voilà.
Muriel Barbery, si je me souviens bien, n'a pas eu tellement de presse non plus lors de la sortie.
Elle en a eu un peu, en fait. Oui.
Pas un premier roman, en l'occurrence.
Mais voilà, mais en l'occurrence, par exemple, Muriel Barbery, c'est un bon exemple. Elle a eu quand même de la presse, mais elle n'en a pas eu plus que d'autres. Elle en a eu un petit peu. Mais, bon, pas spectaculairement, mais un petit peu quand même. Oui. Mais de toute façon, ça n'a pas joué
Bertrand
de rôle, je pense.
Vous vouliez intervenir sur ce
très, très brièvement et sur le même sujet pour insister sur le rôle des libraires. Je crois vraiment qu'on ne le dit jamais assez. Sur cette fonction de prescription des libraires qu'ils ont retrouvée, qui avait un petit peu disparu ou qui s'était un peu atténuée, qu'ils ont retrouvée il y a quelques années, elle est aujourd'hui réellement importante. Je crois que la profession s'accorde à penser qu'on compte environ 120-140 libraires qui ont véritablement un rôle et un pouvoir dans le lancement, dans le succès d'un titre. Ça, c'est tout à fait important. Et c'est peut-être pas un hasard si un certain nombre d'éditeurs ont développé une fonction qu'ils appellent de surdiffusion. C'est-à-dire que ce n'est pas une fonction commerciale, ce sont des éditeurs eux-mêmes, non pas les commerciaux, mais qui vont parler aux libraires, qui vont présenter leurs bouquins.
Oui, ça doit...
On parle de littérature, oui, hein, oui. On ne parle pas de chiffres, ça c'est les commerciaux qui s'en occupent, mais ça me semble tout à fait important et illustrer ce qu'on est en train de dire, quoi, cette importance des libraires. C'est évidemment à mettre en relation avec ce qu'Arnaud évoquait et d'autres, sorte de suspicion, de défiance par rapport à la critique quand elle existe. Quoi.
Mais c'est au point qu'on voit reparaître une vieille fonction du libraire, parce que c'est dommage que Jean-Marie Ozanne ne soit pas là, mais il est libraire-éditeur. Il a lui-même créé une petite structure éditoriale où il publie, pas forcément des premiers romans d'ailleurs, mais enfin, entre autres, certains parfois. Est-ce que ça change beaucoup le travail de l'éditeur, précisément? Est-ce que ça oblige à avoir, vous parliez tout à l'heure des différents canaux qu'il faut essayer d'atteindre? Donc il ne suffit pas d'envoyer des représentants, par exemple. Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça change la stratégie éditoriale?
C'est passionnant, mais c'est difficile et très émietté, forcément, puisque chaque libraire a son tempérament. Chaque libraire a payé le prix de sa liberté et de son goût. Donc il faut le convaincre et lui parler. Alors on ne va pas voir tous les libraires.
On va avoir des libraires avec qui on s'entend aussi, des libraires qui sont réceptifs, des libraires avec lesquels on a un lien particulier. C'est un peu des histoires de vie de chacun dans ce métier, en fait. On a telle circonstance, on fait que on a croisé un libraire avec qui on s'entend très bien et à qui on va pouvoir parler très librement de quelque chose. Mais c'est vrai que la liberté, enfin, il faut parler très librement au libraire parce qu'un libraire ne s'en laisse pas compter du tout. Et donc, il faut dire vraiment ce qu'on sent et ce qu'on croit. De toute façon, je crois que toutes ces évolutions récentes ont peut-être eu des conséquences fâcheuses sur les ventes de tel ou tel titre, etc. Mais comme il y a énormément maintenant de canaux, les manipulations et les trucages qui ont pu sévir pendant toute une période de l'édition sont forcément beaucoup moins rentables, simplement. Oui. Il y a des grosses machines à abuser le téléspectateur, par exemple, qui ne marchent plus. Et ça, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple. C'est peut-être beaucoup plus fatigant, mais ça peut être beaucoup plus jouissif aussi. Enfin, il faut voir les choses comme ça. Quoi.
Voilà. Ouais. Oui, Karine, vous vouliez... Je voulais juste dire qu'en ce moment, en fait, a lieu le moment où on rend... la présentation en fait par les éditeurs de la rentrée littéraire. Et c'est juste pour expliquer comment cela se passe. Effectivement, il y a une relation maintenant de plus en plus l'éditeur prend soin de l'information qu'il va apporter à son libraire. Et en 8 ans de librairie, j'ai vu se démultiplier et dans le temps que cela occupe et le nombre d'éditeurs le faisant, les petits déjeuners, les soirées organisées, et c'est très agréable, moi j'adore, j'adore ça, à m'asseoir et que l'on me parle de livres, j'adore, où en fait l'éditeur invite les libraires le matin à 9h30 ou le soir à 19h autour d'un verre ou d'un petit déjeuner et puis il va présenter sa rentrée littéraire. Ça a lieu en janvier souvent et ça a lieu maintenant pour septembre et octobre. Et cela, c'est dire véritablement quelle relation, quelle articulation s'établit entre le libraire et l'éditeur est bien représentatif de la conscience de la nécessité d'éviter un maximum de métiers. Pour aller au cœur, c'est-à-dire que le livre soit sur la table. Ça c'est très important, je pense. Et maintenant, pour revenir sur le rôle de la presse, je pense que la presse est véritablement, je suis d'accord avec Arnaud, est véritablement là où elle doit être lorsqu'elle a sa fonction de où elle découvre, en fait. Et je pense que le gros problème aujourd'hui de la presse, c'est que tout le monde parle à peu près de la même chose et qu'il y a peu de prise de risque. Moi, il me semble que en librairie, il y a peut-être plus de prise de risque parce qu'on est obligé de le faire. On est obligé parce qu'on doit traiter tous les bouts, enfin un maximum de livres quand même, puisque c'est l'offre. Dans un magazine, peu importe en fait, c'est véritablement, il y a une offre, mais c'est quand même limité. Il n'y a pas non plus, on a des suppléments littéraires qui ne sont pas épais. Donc, il y a ce problème de la découverte. Véritablement, moi, pour moi, c'est le gros problème en France. Quoi. C'est, tout le monde va... Et d'ailleurs, en librairie, c'est souvent la même chose qui revient, c'est... qu'est-ce qui... Allez, que me conseillez-vous plutôt que, que ça. Il n'y a pas que ça, quand même. Vous voyez, c'est ça, c'est ces chemins qui sont toujours les mêmes, quoi, en fait. Voilà.
Alors, vous avez envie de réagir l'un et l'autre, Arnaud et Mine ?
Oui. En fait, il y a là, quand on dit voilà la presse aussi, il y a un autre. En fait, elle joue aussi à un autre niveau et qui est important. En fait, il ne faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire que, quand bien même, comme le disait Mine tout à l'heure, ça n'a pas d'impact sur les ventes ou ça a peu d'impact sur les ventes.
Ça appuie les ventes, ouais. Quand même. Ça appuie bien.
Mais des fois, sûr, effectivement, ouais. Comme tu le disais tout à l'heure, voilà, on peut faire la une du monde des livres et puis que ça n'ait absolument aucune incidence. C'est possible.
C'est possible.
Et j'en ai fait une fois l'expérience avec Libé et en revanche, toute la profession le sait, ça, instantanément. C'est-à-dire toute la profession qui, par contre, consulte ces publications-là, évidemment, les reçoit instantanément, et elle le sait. Et donc, en fait, l'effet n'est pas nul au sens où un auteur qui ne sera peut-être pas obligatoirement un auteur grand public, voilà, sur lequel l'éditeur va pouvoir compter pour renflouer ses caisses, eh ben, en revanche, voilà, il y a une espèce de... Comment dire ? au moins l'éditeur est conforté dans le fait de l'avoir publié. C'est-à-dire il se dit bon bah voilà, je suis pas le seul à croire oui. à cet Hulot-Berlu, y a quelques raisons et j'ai trouvé voilà un écho ailleurs quoi. Et donc même si ça n'était que ça l'effet de la presse, ça n'est pas le cas. Mais même si ça n'était que ça, ça a quand même une vertu, c'est-à-dire que ça permet à certains auteurs qui ne vendent absolument pas de continuer d'être publiés quand même.
C'est un peu réconfortant finalement.
Oui. Oui.
C'est vrai, vous confirmez, oui.
Publication, il y a des moments de solitude pour l'auteur, évidemment, puis il y en a pour l'éditeur. Et l'éditeur, il est toujours sous sur. Enfin, il y a des éditeurs qui sont absolument indépendants et qui travaillent sur fonds propres. Et, bon. Mais enfin, c'est très rare. On a toujours derrière des contrôleurs, des surveillances, des contrôleurs de gestion, des diffuseurs de mauvaise humeur, éventuellement des banquiers, etc. Tout simplement une hiérarchie d'entreprise et de groupe. Donc on a tous des comptes à rendre. Et donc on s'accroche quand on n'a pas d'écho sur un livre et quand on en a et quand on s'obstine à publier l'auteur et qu'on n'en a pas au deuxième. Là, c'est vrai que ça commence à craquer. Le système craque sérieusement. Et c'est vrai que le moindre papier apporte quand même la petite lueur qui au moins permet éventuellement de se défendre dans une réunion difficile et permet de rassurer un peu tout le monde et de peut-être continuer. Hein. Et c'est parfois au cinquième que ça marche.
Ouais. Voilà. C'est d'une grande utilité.
Voilà, donc vos propos me réconfortent. Voilà. Non, c'est vrai que, en fait, ce que je me disais, c'est que il y a une circulation circulaire de l'information au sein de la presse hein, qui est évidente et qui a deux effets. C'est que, d'une part, tout le monde parle des mêmes choses, mais de fait, nous, on est le magazine littéraire. Modiano sort un livre, évidemment qu'on va devoir en parler. Marianne Diaz sort un livre, évidemment qu'on va devoir en parler. Donc, il y a déjà des cases qui sont prises a priori et qu'on ne peut vraiment pas enlever, quoi. Parce que c'est une faute professionnelle sinon, donc on continue. Même si c'est très bien Marianne Diaz, mais c'est vrai que bon, là, elle sort un nouveau roman, on va encore faire la page. Ça fait cinq pages de suite qu'on la suit et qu'on fait la page. Mais il y a aussi... Mais il y a un buzz aussi au niveau de la découverte, c'est-à-dire qu'en même temps, chaque année, la presse est aussi consciente du fait qu'elle a un rôle à jouer là-dedans. Donc, il y a aussi des gens qui sont là pour chercher vraiment quelle figure, quel roman va être vraiment intéressant, mais qui n'est pas non plus dans les rails habituels. Et il y a aussi un buzz qui s'effectue à ce niveau au sein de la presse. On cherche, qu'est-ce que tu as découvert à part ? Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert à la marge ? Donc, il y a aussi une petite place qui est réservée à ça, qui est petite. Place, mais il y a quand même, ça continue à fonctionner quand même. Il y a cette niche là qui existe, qu'on essaie de défendre, etc. Et d'autre part, je voulais dire que c'est vrai que le libraire, du coup, maintenant est beaucoup utilisé par de manière générale les médias et donc par la presse, entre autres. Je pense par exemple au magazine, on fait un palmarès des libraires maintenant, ce qu'on ne faisait pas évidemment il y a 5 ans même. Voilà. Mais je pense aussi aux émissions où il y a toujours un libraire qui est invité à débattre, qui est invité, parce qu'on y a. Il y a un commencement de sacralisation de la figure du libraire aussi en tant qu'acteur à part entière. Et c'est vrai que Karine le disait par rapport au fait que les éditeurs organisent désormais des soirées vraiment consacrées aux libraires. Je crois qu'Actes Sud était un précurseur d'ailleurs dans cette technique, si je puis dire, d'approche. Et maintenant, il y a Grasset, il y a Stock. Tout le monde, chaque année, rituellement, fait ses 5, 6, 8 villes. Voilà, et donc c'est vrai que moi je regarde mon programme de juin, donc lundi c'est la réunion libraire de présentation, donc la réunion de présentation libraire à Paris, le lendemain à Strasbourg, une semaine après on sera à Lyon, on sera en Suisse, on va à Toulouse, on va à Bordeaux, ils ont rajouté Lille, enfin voilà. Et donc tous les auteurs ne peuvent pas tout faire, normalement c'est pas Shiva quand même, mais maintenant cette tournée qui s'est greffée en plus des salons et en plus des rendez-vous presse.
Oui, ce qui change un petit peu le statut, d'ailleurs, le rôle de l'écrivain, mais ça serait encore un autre débat. Effectivement, ça devient un métier de plus en plus compliqué, peut-être. Peut-être avez-vous des questions. On a quelques minutes, tout de même, des remarques ou des points sur lesquels on n'a pas... Oui.
Oui, j'avais deux questions. La première, c'est... En quoi la fabrique du romancier est-elle influencée par la crise ? Est-ce qu'il y a une approche qui a changé ? Il y a un phénomène quand même qui est important que vous n'évoquez pas, qui est la concentration dans le monde de l'édition, qui est la conséquence de la mondialisation. Est-ce que ça a une conséquence concrète?
Alors, qui veut répondre à cette question? Oui, peut-être l'éditeur, oui.
Il y a plusieurs à répondre, parce que chacun a son point de vue.
Oui.
Bon, de toute façon, la crise dans l'édition, elle est très ancienne. C'est un processus d'érosion, effectivement, avec des restructurations régulières. En même temps, naissent beaucoup de structures indépendantes. Chaque année apparaissent de nouvelles maisons d'édition. Et ça, c'est toujours été un phénomène compensateur à d'éventuels appauvrissements de lignes éditoriales qui peuvent survenir quand il y a des restructurations. Maintenant, il est rare qu'on restructure en supprimant les marques d'édition dont dépendent un certain catalogue, parce que ce serait une absurdité commerciale aussi. Une marque, pour, d'un point de vue purement capitaliste, une marque, ça vaut de l'argent. Donc, quand il y a une marque avec un catalogue derrière et qu'il y a une diffusion du fond, etc., on ne supprime pas la marque. Et la marque continue à publier. Et la marque, ça peut être simplement une collection. Ce n'est pas forcément le nom de l'entreprise. Ça peut être une collection qui dure. Bon, enfin, il y a toutes ces logiques interférentes dans ce qu'on peut appeler une crise de très longue durée, hein, qui dure depuis 20 ans, 25 ans, qui a produit beaucoup d'effets sur la librairie, sur le tissu de la librairie et puis sur le paysage de l'édition. Alors, est-ce que ça change la politique de choix des textes? Dans certains contextes, forcément, oui, c'est très difficile de généraliser. C'est vraiment très difficile de répondre comme ça. Il y a toujours, même dans des très gros groupes, on a cette stratégie de petits laboratoires comme ça, un peu qui font des expérimentations. On lance des collections sur des terrains particuliers. On a à cœur de trouver des textes qui ne sont pas forcément dans les codes d'écriture habituels. Et d'énormes groupes très capitalistes d'édition ont cette démarche aussi. Alors, je crois que c'est un paysage complexe. Hein. C'est très difficile de généraliser, de résumer.
Pour peut-être donner un exemple de ce que dit Philippe Garnier, par exemple, au Seuil, racheté par La Martinière, etc., donc pour le coup, gros groupe avec des actionnaires qui n'ont rien à voir du tout avec le livre, ça correspond aussi au moment, le moment de ce rachat correspond aussi au moment où on confie à François Bon la possibilité d'éditer justement plusieurs textes de littérature, disons, expérimentale. La collection, je crois, maintenant s'est arrêtée, je crois, la collection Déplacement. Mais voilà, ça n'empêche pas justement les mêmes raisons, en fait, c'est-à-dire la crise, pour aller vite, explique aussi justement le développement de publications sur Internet, notamment le site justement publi.net de François Bon, et qui est pour le coup une vraie expérience très réussie d'édition alternative, quoi, qui fonctionne sur un autre modèle. Et je trouve cet exemple-là vraiment absolument parfait, quoi. C'est-à-dire c'est très réussi ce qu'il tente là, je trouve.
Oui. Un mot encore sur cette question. On est effectivement, je crois, dans un mouvement de très longue durée. Là, si votre question portait sur la crise dont on parle depuis quelques mois, je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conséquences. Mouvement de très longue durée, et on y observe dans l'édition, mais je crois que ça vaut de manière générale, que les grandes forces de rationalisation, d'industrialisation ont des contre-effets que Philippe Garnier évoquait, de création de structures qui peuvent être au début marginales et puis finissent par prendre un peu de place pour certaines, et qui trouvent leur place justement parce qu'elles se positionnent en rupture avec les logiques de rationalisation et tout ça, sur une démarche plus créative, plus innovante. Et dans l'édition, si on regarde les 20 ou 30 dernières années, je m'étais amusé à faire ça il y a longtemps, je n'ai pas la liste en tête, mais on trouve assez facilement, une grosse quarantaine de maisons d'édition qui se sont créées dans ce contexte de concentration, enfin, bref, je ne le redécris pas, et qui sont aujourd'hui des maisons qu'on peut signaler comme appartenant à un ensemble de maisons créatives. Ça me paraît très très clair. Alors, est-ce que ça n'empêche pas, je vais très vite, mais ça n'empêche pas évidemment que la figure de l'auteur elle-même soit prise en partie dans ces logiques de rationalisation? On pourrait en poussant un tout petit peu le raisonnement, considérer que la participation, l'implication accrue des auteurs dans les festivals, dans les signatures, dans le, ça, fait partie de ce travail qui amènerait l'auteur à devenir un peu son propre commerçant. Hein. Mais avec précaution, je crois qu'il faut vraiment bien se garder d'aller trop vite dans ces propos-là. Oui.
Alors, il y avait une autre question au fond. Voilà, oui, levez bien la main.
Alors, ce serait une question plutôt pour Monsieur Legendre, encore. Par rapport à votre enquête, vous disiez que le premier quart, donc en fait 25% d'auteurs de premier roman, passaient ensuite à autre chose, éventuellement. C'est-à-dire qu'ils pouvaient passer à la jeunesse. Et je me pose une question. La jeunesse, est-ce que ce n'est pas déjà de la littérature normale, disons-nous, sachant qu'elle a tous les genres elle-même. Donc, je me demandais pourquoi, dans votre enquête, en postulat de départ, vous excluiez d'emblée la littérature jeunesse.
Je n'exclus rien. Bon, d'abord, les choses vont dans les deux sens. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, on a des auteurs de jeunesse qui deviennent des auteurs pour adultes. Je n'établis pas de hiérarchie, je sens un peu ça dans votre question, entre les gens. Il n'y a absolument rien de tel dans l'analyse. Je repars des catégories professionnelles et du fonctionnement de la librairie. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais il faut bien partir de quelque chose. On ne peut pas non plus parler de tout en même temps. Donc, je suis reparti de ces catégories-là. Et il me paraît quand même difficile de nier que, pour une grosse part de la production, il y a d'un côté un public jeunesse et de l'autre côté un public adulte. Il y a des zones de recouvrement, bien sûr, hein, mais de là à nier les catégories, j'aurais eu beaucoup de mal à le faire.
Peut-être une dernière question ici, au deuxième rang là. Oui. Non. Voilà. Merci.
Alors en fait, je voulais savoir.
Et bien près du micro.
Oui, pardon. Pendant toute la conférence, vous nous avez expliqué comment, en gros, qu'est-ce qui faisait fonctionner un livre. Et ma question, elle est peut-être un peu stupide, mais pourquoi est-ce que c'est si important qu'un livre fonctionne, spécialement peut-être pour un auteur? Par exemple, au vu de, je sais pas, l'histoire littéraire, on voit que souvent le désaveu du public, ça a pu être une marque de qualité, en fait. Je sais pas, c'est peut-être un peu...
Non, je ne suis pas certain que le désaveu soit une marque de qualité, puisque précisément, il y a aussi énormément de livres qui sont désavoués et qui, de fait, l'étaient pour de bonnes raisons. Mais c'est vrai que dans l'histoire littéraire, il y a aussi, heureusement, des chefs-d'œuvre qui ont fini par trouver leur public plus tard. Mais dans ce cas-là, ils ont été quand même... C'est très compliqué d'arriver à mesurer exactement où se situe la limite entre un livre qui va disparaître, parce qu'effectivement, il a vraiment eu trop peu d'écho. Et quand même un livre qui va arriver à survivre un petit peu jusqu'au moment où enfin il va réellement trouver son public. Par exemple, je ne sais pas, on ne va pas refaire toute l'histoire de la littérature, mais c'est vrai que l'exemple de Stendhal, c'est un exemple très complexe pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'il trouve quand même un petit peu son public. Balzac écrit un article de 40 pages sur ce type que personne ne connaît. Il fréquente quand même d'autres auteurs, il fréquente George Sand, etc., etc. Personne ne l'aime, tout le monde le trouve bizarre, etc. Mais voilà, il y a quand même une petite base de lecteurs toute petite. Et Stendhal dit « Je serai lu en 1930 » et en 1930 paraissent les premiers livres sur Stendhal. Quoi. Et à ce moment-là, il devient effectivement un auteur majeur du 19e, ce qu'il n'était pas jusque-là. Donc toutes les histoires sont possibles, mais quand même, il faut assurer à un moment un minimum de circulation. Par exemple, ce ne sera pas obligatoirement beaucoup de lecteurs, mais le livre va tourner dans le milieu. Voilà. Il y a plein d'auteurs qui vont le lire. Vous savez, comme on dit que Coltrane, c'était un musicien pour musicien, il y a peut-être des auteurs pour auteurs pendant un temps. Et puis ensuite, effectivement, ça déborde le cercle des auteurs et des gens du milieu. Et puis, ça finit par se savoir que c'est génial. Et puis, il y a des relais qui aident à lire aussi. Je ne sais pas, par exemple, si vous prenez Malcolm Lowry, c'est évident que sans le relais et l'enthousiasme des lecteurs qui se le passent de main en main, c'est un livre assez fermé, quoi. C'est difficile de rentrer dans au-dessous du volcan comme ça si on n'est pas absolument pas prévenu, etc. Donc... Voilà, un ami qui le passe à un autre ami, etc. Donc il faut quand même assurer une espèce de... C'est quand même nécessaire, c'est-à-dire qu'un livre qui a zéro lecteur ou qui a 30 lecteurs, voilà, d'abord, ça va être très difficile pour lui de continuer à être publié, cet auteur-là. Donc si c'est l'auteur d'un seul livre, ça va vraiment être très difficile pour que ce seul livre-là vive. Et puis ensuite, s'il n'a que 30 lecteurs, ça veut dire qu'il n'y aura quasiment pas de bouche à oreille ensuite, quoi. Ou alors, miracle, c'est que si les 30 sont enthousiastes, ça va peut-être devenir 60 au bout d'un an. Enfin, c'est pas anodin, quand même, cette question-là, quoi. Et tous les livres qui sont devenus des chefs-d'œuvre n'ont pas tous mal commencé, quand même. Mais c'est important. Par exemple, Les Misérables a fantastiquement commencé. Enfin, je veux dire... Et c'est un véritable chef-d'œuvre. Enfin, c'est pas juste un chromo pour la télé, quoi. C'est compliqué, quoi. Il y a des chefs-d'œuvre qui sont de gros succès. Mais je pense que quand même, pour être certain qu'il ait peut-être une seconde vie à un moment, il faut un minimum, quoi. Il faut que le livre circule un peu, quoi.
Oui, qu'il existe au moins.
C'est pas que de la cuisine, quoi,
Au débat avec des auteurs invités au Festival du Premier Roman. Véronique Bourlon, j'aimerais bien savoir un mot sur la préparation de la prochaine édition. Est-ce que les livres commencent à arriver dans les comités de lecture ou
Non, les livres commencent à arriver, on va dire, au festival, au comité de présélection, puisque dans un premier temps, on est une dizaine dans le comité de présélection, et donc ces 10 personnes-là lisent l'ensemble de la production pour faire une présélection, et c'est cette présélection qui sera mise en lecture auprès des 3000 lecteurs. Parce qu'on, tout simplement, à un moment donné, dans l'histoire du festival, la production de premier roman était telle qu'il a fallu faire une présélection. On ne pouvait pas, à un moment donné, donner 200 premiers romans en lecture à l'ensemble de ses lecteurs. Donc, nous sommes en train de lire des premiers romans, donc qui ont été publiés, on a commencé là au 1er novembre 2008 et on arrêtera au 31 octobre 2009 au niveau de la parution de ses premiers romans.
Ah oui, il doit y avoir une période un peu dure là parce qu'il en paraît beaucoup entre justement septembre.
Donc on a déjà commencé à lire pas mal de premiers romans, il y en a déjà un certain nombre qui sont passés en présélection. Et un certain nombre qui n'ont pas passé cette première étape. Et donc, on va commencer ce qu'on appelle les prêts d'été pour certains lecteurs qui veulent absolument continuer à lire pendant l'été. Et donc, le 23 juin, on organise une réunion pour prêter les quelques premiers romans pour la future édition du festival, pour ceux qui veulent lire pendant l'été. Voilà où nous en sommes. Et j'invite malgré tout, s'il y a des personnes qui veulent rejoindre les lecteurs du festival, vous allez sur le site internet du festival.
Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être de Chambéry pour...
On n'est pas obligé d'être de Chambéry.
Voilà une bonne nouvelle, alors.
Tout à fait.
Donc on peut participer à la sélection.
Exactement. Vous pouvez participer à la sélection si vous n'êtes pas de Chambéry, ni du bassin chambérien, ni de Savoie. On arrive à aller au-delà de nos montagnes.
Oui, c'est bien. Et alors concrètement, comment fait-on donc ?
On va sur le site internet
qui est
www.festivalpremierroman.com et puis là tout est indiqué, quoi. Pour rejoindre un comité, pour créer un lieu de lecture, pour être lecteur indépendant, voilà.
Formidable. Eh bien, vous allez avoir un été studieux et j'espère que beaucoup de gens vont vous rejoindre pour vous aider dans cette magnifique tâche. Merci à vous, merci Amine Ranoui, merci Arnaud Bertina, merci Philippe Garnier, merci Bertrand Legendre, merci Véronique Bourlon. On va continuer donc la séance d'une manière un petit peu différente puisqu'on va entendre, on va discuter et on va rencontrer trois auteurs qui ont participé à la récente édition du Festival du Premier Roman de Chambéry. Donc Karine Henry, qui est déjà intervenue tout à l'heure en tant que libraire, mais qui est aussi primo-romancière, voilà, j'ai retenu le terme, hein, vous savez, c'est bien, Skander Kali et Gilbert Catoré, voilà, qui est là-bas, je l'aperçois tout au fond de la salle. Très bien. Eh bien, merci et bravo à vous.